Radio Alliance Plus. Parole aux associations.
Bonjour à toutes et à tous, Didier au micro de Radio Alliance Plus, dans notre émission Parole aux associations. Et aujourd'hui, je suis avec Christian Richard, qui est le président de Pont du Gard et Patrimoine. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors nous allons parler de Romain, j'imagine. Le Pont du Gard et Patrimoine, cette association, va à la découverte du monde antique.
C'est cela. C'est plus large que le monde romain.
Oui, c'est vrai. C'est plus large que le monde romain. Mais on parle souvent du monde romain dans notre région, puisque on a plein de vestiges.
Bien sûr. Bien, le monde romain a tenu une grande place dans l'Antiquité.
Absolument. Alors, c'est une association. Rien à voir avec l'établissement public Pont du Gard, bien sûr.
Ben oui et non, historiquement, avant la création de Pont du Gard et Patrimoine, il y a eu la création d'un comité intercommunal de défense du site qui avait pour objet de lutter contre un projet qui est apparu aux amateurs, aux populations locales, un peu surdimensionné. Et donc ça a été l'origine de notre association et un comité qui était un comité revendicatif. Ce comité ayant obtenu satisfaction, puisqu'il a inspiré en grande partie le projet qui a été ensuite mené par le conseil départemental, le conseil général à l'époque. Donc, à un moment donné, les membres de l'association, prenant acte qu'ils avaient atteint leurs objectifs, ont décidé de transformer cette association en une association culturelle axée sur la connaissance, la préservation et la mise en valeur de l'aqueduc, mais d'un point de vue culturel. Et c'est ainsi que cette association Pont du Gard et Patrimoine a été créée en 2006 et donc va fêter ses 20 ans l'année prochaine.
Donc elle a été créée, si je me souviens bien, avant ou après le nouvel aménagement du Pont du Gard, où il y a eu ces bâtiments, un parking, etc.
Juste après la décision de faire l'aménagement actuel, et elle a suivi l'aménagement actuel.
D'accord. Voilà. Oui, parce que rappelez-vous, avant, on allait au Pont du Gard comme ça, on pique-niquait sur Gardon. Oui. Je parle de l'aménagement site.
Alors, je pense que je ne me suis pas exprimé avec suffisamment de clarté. Dans les années 90, le conseil général de l'époque, présidé par Gilbert Momet, a eu un projet d'aménagement du Pont du Gard. D'accord. C'est-à-dire qu'en 85, le Pont du Gard a obtenu le label UNESCO. Et donc, il y a eu un projet qui est apparu un peu démesuré, certains diraient pharaonique, qui avait pour objet de créer de grandes installations et surtout, dont la principale finalité est apparue un peu comme rentabilité du site. Parce que s'il y avait 1 million de visiteurs au Pont du Gard, ça profitait qu'aux marchands de frites, disiez, et aux marchands de cartes postales, aux restaurateurs, ce qui est déjà, chaque métier a sa noblesse. Mais les obligations du classement de l'UNESCO ont imposé un projet un peu plus structuré. Et c'est contre ce premier projet que s'est créée une association qui a lutté pendant des années contre le projet, on va appeler ça Baumé, mais c'est le projet du conseil départemental, et ayant obtenu satisfaction, cette association s'est transformée en association culturelle, dans la mesure où ce qu'elle demandait autour du Pont du Gard a été obtenu par le projet actuel.
Cette association ne s'appelait pas Pont du Gard et Patrimoine.
Non, ça s'appelait le CIDS, le comité intercommunal de défense du site.
D'accord. C'était une association...
Loi de 1901, oui.
Oui, loi de 1901, oui. Oui. Et donc, Pont du Gard et Patrimoine...
Est issu de cette association.
Oui. D'accord.
C'est ça.
Et vous avez décidé en 2006, donc, de vous-même, vous participiez à la création?
Pas du tout. Moi, je suis membre depuis 7 ou 8 ans, depuis que je suis à la retraite. Et je suis président depuis le 1er février dernier.
D'accord. Donc cette association, elle a un siège social, on peut la joindre à quoi, à Nîmes?
Non, le siège social est à Castillon-du-Gard, parce que historiquement, les populations voisines du Pont du Gard qui s'étaient mobilisées.
Seul village où on aperçoit le Pont du Gard.
C'est cela. Et historiquement, premier président habitait Castillon-du-Gard, donc le site.
Oui, puis ça me semble logique que ce soit Castillon-du-Gard.
C'est souvent pour des raisons pratiques qu'on met le siège social.
Alors vous avez des bénévoles, j'imagine.
Oui, on a la chance, on a 150 membres.
Ah, quand même.
Et on a la chance d'avoir 15 membres du conseil d'administration, dont chacun a un rôle particulier et ils nous apportent tous quelque chose à l'association. Vous savez, des fois, pour garnir, entre guillemets, un conseil d'administration, on fait appel à des bonnes volontés qui, souvent, n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Donc là, c'est le cas.
Alors, vous réunissez, il y a un local particulier ou...
Non, on se réunit chez l'ancien président qui D'accord. nous accepte de continuer à accueillir. Mais la municipalité de Castillon-du-Gard nous met à disposition la maison des associations et nous la remercions parce que c'est un très bel équipement.
Alors, je pense que nos auditeurs peuvent vous rejoindre sur la page Facebook. Voilà. De cette association, c'est ça ?
Voilà, nous avons une page Facebook. Alors là, si on veut avoir des informations sur notre association, il faut aller sur notre site.
Ou participer.
Notre site s'appelle pontdugard.fr.
Non, .org, vous m'avez dit.
Pontdugard.org, oui. C'est pontdugard.fr, c'est le site du Pont du Gard officiel. Nous, c'est pontdugard.org. Vous faites bien de me reprendre ce lapsus. Et ils trouveront toutes les informations sur notre association. Et puis, pour les informations au quotidien, il y a une page Facebook qui s'appelle tout simplement Association Pont du Gard et Patrimoine.
D'accord. Donc on peut vous joindre aussi, si on veut avoir des renseignements, je donne le numéro de téléphone.
Oui, bien sûr.
Au 06 80 26 18 96.
C'est ça.
Alors maintenant, pour organiser tout ça, le nerf de la guerre, c'est un peu les finances. Vous êtes subventionné ? Vous avez des dons ou subventions publiques ?
Alors, curieusement, on a une subvention de la mairie de Castillon, une subvention modique. Mais j'avoue qu'il y a eu une gestion tout à fait parcimonieuse et nous n'avons pas trop de problèmes financiers puisqu'on organise un certain nombre d'activités qui sont payantes. Oui.
Et les 150 membres payent
une cotisation qui est de 15 euros pour un membre et de 25 euros pour un couple.
D'accord. Bon, ben on va écouter comme d'habitude au milieu d'interview une musique que vous avez choisie, que c'est Eddie Mitchell. Au temps des Romains.
Voilà.
Donc on est en plein dedans.
On est en plein dans le cadre et dans la préoccupation et l'intérêt de notre association.
Eh bien, on écoute Eddie Mitchell au temps des Romains et on se retrouve après cette pause musicale.
La foule est assemblée de tous côtés, ça gronde. On attend l'empereur, le seul maître du monde. Et dans une clameur à déchirer les cieux, j'arrive avec César, applaudi comme un dieu. J'aurais vraiment été très bien au temps des Romains. J'aurais vraiment été très bien au temps des Romains. On m'aurait appelé le grand Claudius, le seul chanteur de rock dans la ville de Rome. Dans l'arène sanglante, pour certains, croyez-moi, c'est moi qui de là-haut aurais baissé le doigt. Oh, j'aurais vraiment été très bien. Tous prisonniers barbares, ainsi que la sono la plus belle d'Italie, et Cléopâtre aussi livré dans un tapis. Qu'un rêve de gloire, il ne m'appartient pas de déformer l'histoire. D'autant plus voyez-vous que tout est contre moi, car mes ancêtres hélas descendaient des Gaulois. J'aurais vraiment été
bien, vous venez d'écouter Eddie Mitchell au temps des Romains, une musique qui s'adapte à l'association Pont du Gard et Patrimoine. Je reçois aujourd'hui Christian Richard. Nous nous retrouvons dans cette deuxième partie. Nous allons évoquer un peu la découverte du monde antique et les activités que propose cette association. Alors, Christian, vous faites déjà des visites archéologiques, bien évidemment.
Tout à fait. Nous avons dans l'association ce qu'on peut appeler des experts, puisque ce sont des personnes qui sont passionnées par le monde romain et notamment par les constructions, les vestiges romains à Nîmes et particulièrement par le pont du Gard. Et ces passionnés organisent tout au long de l'année ce qu'on appelle des archéovisites, c'est-à-dire des visites du l'aqueduc du pont du Gard. Je rappelle que de la source d'Eure à Uzès jusqu'au Castellium Aquae à Nîmes, l'aqueduc fait une cinquantaine de kilomètres. Donc à raison d'une journée complète par mois, du mois d'octobre au mois de mai-juin, une personne intéressée, un adhérent, pourra faire la totalité du parcours du pont du Gard. Et il y a des choses très intéressantes à faire tout au long du parcours.
On se pas un simple tracé, un chemin.
On se polarise beaucoup sur le pont du Gard lui-même, qui est 275 mètres sur les 50 km de l'aqueduc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et nos accompagnateurs sont intarissables sur l'ingéniosité dont ont fait preuve les Romains dans la construction de ce monument. Donc on fait des visites, mais on ne fait pas que des visites du pont de l'aqueduc, on fait des visites aussi à Nîmes, puisqu'on va bientôt faire une visite du Castellum Divisorium de la Porte Auguste. On fait des visites aussi, ce qu'on appelle toujours des archéovisites. Récemment, on est allé sur les aqueducs, le parcours des aqueducs d'Arles et de Barbegal, donc avec un spécialiste, je veux dire, incontesté dans la manière, qui est un membre de l'association, qui fait des visites depuis des années et qui a acquis une connaissance très, très pointue de cet aqueduc. On fait aussi ce qu'on appelle des journées réservées aux adhérents, c'est-à-dire que deux ou trois fois par an, on part pour une journée complète sur un site extérieur. On a été reçu récemment par le président de l'Académie d'Arles, M. Marc Hegemann, qui est archéologue et enseignant à la faculté d'Aix-Marseille, qui nous a fait visiter la commune d'Arles sous un aspect archéologique, enfin les vestiges de la commune d'Arles sous un aspect archéologique. Nous envisageons l'année prochaine une visite du musée de Saint-Romain-en-Galles, du musée archéologique Saint-Romain-en-Galles.
C'est vers Lyon, ça.
C'est vers Lyon, et en même temps, on fera une visite, je pense, du musée archéologique de Lyon. On a prévu aussi d'aller sur Arles, de faire la visite du musée de l'Éphèbe, etc. On fait beaucoup de visites de sites autour. On est allé aussi au musée de Loupia, on est allé dans tous les musées alentours, quoi.
Donc, revenons sur le parcours de l'aqueduc, enfin du chemin qui va de l'aqueduc au Castellum. Vous parliez tout à l'heure d'animateurs. Donc en fait, ce sont des accompagnants, spécialistes, archéologues. Et qui vous
ce ne sont pas des archéologues, ce sont des amateurs.
Des amateurs.
Voilà, d'accord. Ce sont des amateurs
largement
éclairés.
Oui.
Parce que, je veux dire, ils font ça depuis très longtemps et leur combat, ils sont issus du combat aussi contre le projet des années 90, leur combat n'a pas été qu'un combat revendicatif, ça a été un combat qui avait un aspect aussi culturel qui a fait qu'ils ont accumulé un grand nombre de connaissances sur la construction romaine. On a aussi des ingénieurs au sein de l'association qui nous attirent l'attention sur tel ou tel aspect de l'ingéniosité romaine. Donc,
Alors, parlez-nous, ce tracé de l'aqueduc, vous l'avez scindé en plusieurs parties, en six, qui permet à chaque fois de une balade qui dure combien de temps à
La
peu
journée.
Près Ah, la journée,
on part
carrément.
De 9h jusqu'à 16h-17h, on prend le déjeuner sorti du sac, comme on dit, et on déjeune souvent dans des endroits magnifiques, parce que l'aqueduc traverse des endroits magnifiques de la Garrigue.
Alors justement, rentrons un peu dans le détail de ce chemin, que effectivement nos auditeurs connaissent. On connaît l'aqueduc, on connaît le Castellum, enfin pour certains. Et puis, ce tracé, il va à travers la Garrigue, c'est ça ? Il
c'est
traverse
ça.
Pas de, de ville.
Ben, il,
ou
il traverse,
de village.
Ben, il traverse pas. Des fois, il affleure. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on part d'Uzès, à Source d'Or,
oui,
c'est juste
voilà.
À côté du duché. Donc, ça nous amène. Là, il y a de magnifiques choses à voir. Moi, je passe des détails. Notamment
non, mais ce qui est plus significatif.
Un bassin de dérivation,
ah ouais,
par exemple,
d'accord.
La sortie qui permettait de pouvoir vider, enfin, pouvoir dériver les eaux de l'aqueduc si on avait des interventions techniques à faire sur le reste du tracé.
Ah ouais. C'est très ingénieux, je crois.
On a la résurgence de Bornègre aussi, qui est magnifique à voir, le pont de Bornègre. On a aussi des petits vestiges tout au long. On arrive après à Verse,
ouais.
et on a toute une partie, alors entre Verse et le pont du Gard, l'aqueduc du pont du Gard, c'est 90% enterré. Le tracé, la conduite des eaux qui a mené les eaux de la source d'Eure à Uzès à Nîmes, c'est 90% enterré. Et les 10%, c'est la partie comprise entre Verse et le pont du Gard, y compris le pont du Gard. Donc cette partie-là est très intéressante à voir puisqu'il y a des structures un peu élevées, des structures sur
pompe. Il y a des vestiges visibles.
Il y a des vestiges visibles, bien sûr.
Mmh.
Et ensuite, vous avez les bois de Romoulin qu'on a fait dimanche,
ouais.
Qui sont beaucoup plus sportives. Et là, vous avez sept ouvrages d'art pour passer les combes du bois de Romoulin.
Et ça existe.
Ça existe toujours, oui. Bon, c'est des vestiges,
bien
mais
sûr,
ça existe.
Oui, vestiges, oui.
Vous avez après l'ingéniosité romaine, vous la trouvez entre Saint-Bonnet et Cernac, où vous passez par les tunnels des Escones et la vallée des Escones.
Les tunnels,
on passe dedans, oui, bien sûr, ouais. On passait dans les tunnels.
C'était
des conduites enterrées.
D'accord.
Ensuite, vous avez l'ingéniosité, par exemple, du passage des Romains l'étang de Clausone, qui est vraiment un prodige. Ensuite, vous avez l'aqueduc chemine vers Bezous, puis après, il arrive à Marguerite, il arrive à Nîmes par l'école de police, derrière l'école de police, et il chemine, vous avez dans la rue de la Crucimel, dans la rue vers le quartier de la de faire, vous avez des gens qui ont leur maison une partie de l'aqueduc de Nîmes.
D'accord.
Alors, la principale chose qu'il faut connaître, c'est que les Romains cherchaient de l'eau pour Nîmes, et de l'eau de qualité, ils l'ont trouvée à la source d'Eure, mais la source d'Eure, elle était à 72 mètres de hauteur, et ils ont amené l'eau à Nîmes, au Castellum Divisorium, à 59 mètres de hauteur.
C'est ça, donc il y avait une pente.
Il y avait une pente qui est de 25 cm par kilomètre.
Oula, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Et voilà l'ingénierie romaine. Comment en captant l'eau à la source d'Eure à 72 mètres, ils étaient sûrs d'arriver à Nîmes
et l'eau
sur les hauteurs.
Se déroulait.
Oui, mais elle mettait 24 heures pour arriver.
Ah oui.
24 heures pour arriver. 40 000 mètres cubes à l'époque où l'aqueduc fonctionnait à plein.
40 000. Et ça se termine par le Castellum.
C'est sur le Castellum Aquae qui est un des deux réservoirs distributeurs d'eau connus actuellement, le deuxième étant en Pompéi.
D'accord. Alors le Castellum, les Nîmois le connaissent, ne connaissent pas trop leur fonction. C'est, quand on les voit, on a encore le vestige de l'arrivée. C'est ça, de l'eau venant de l'aqueduc, et puis des dérivations pour pouvoir alimenter plusieurs quartiers. C'est
les quartiers et les monuments. C'est-à-dire qu'en fait, Nîmes, à l'époque, n'avait pas besoin d'eau, en fait. Hein. Ça suffisait avec l'eau de la fontaine. Et puis, il y a une nappe phréatique pratiquement affleurante à Nîmes. Il y a beaucoup de puits. Il y en a encore beaucoup dans les cours des hôtels particuliers. Donc, Nîmes n'avait pas besoin d'eau. Mais la civilisation romaine, oui. C'est-à-dire la civilisation des thermes, la civilisation des égouts, parce que l'assainissement, l'eau a apporté le prestige aussi. Mmh. Les Romains aimaient bien apporter avec leur civilisation le prestige qui est de pouvoir arriver à construire ce genre de monument. Mmh. Donc il fallait de l'eau pour desservir les thermes qui étaient un élément important de la vie des Romains, de nettoyer l'assainissement, apporter l'eau aux fontaines publiques. C'était très important. Donc, la création d'un monument aussi énorme que l'aqueduc de Nîmes était liée au fait que ça permettait aux populations locales de savoir que les Romains avaient un prestige, des connaissances, et c'était une façon pour eux de s'assimiler plus vite.
Alors écoutez, pour rejoindre ce tracé de l'aqueduc, c'est ouvert bien évidemment aux membres, mais des personnes ou des Nîmois qui veulent aller...
C'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde.
C'est-à-dire que notre prochaine visite, par exemple, a lieu le 9 novembre, c'est un dimanche.
Oui.
Là, on va faire le tracé entre Saint-Bonnet et Cernac, avec les tunnels, les escônes et le passage sous les temps de Clozon. Il suffit d'aller sur notre site, de s'inscrire. C'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, on espère que les personnes, après avoir fait des visites, adhéreront à notre association.
Oui.
Mais il suffit d'aller sur notre site et de s'inscrire. Donc,
Alors, c'est payant, gratuit ?
Alors, les visites sont gratuites.
En plus ?
Voilà, les visites sont gratuites. Et puis après, bon, bien sûr, on souhaite que ces personnes adhèrent à l'association. Bien sûr, c'est une porte d'entrée de l'association avec d'autres activités que nous allons aborder, je pense.
Alors, allez sur le site pontdugard.org.
Oui.
Et non pas .fr, parce que vous irez sur le site officiel
du Pont-du-Gard.
Si vous voulez vous inscrire pour ce tracé, c'est pontdugard.org.
C'est cela.
Alors, on va passer maintenant d'autres activités que vous proposez, et notamment des voyages et des conférences. Conférences, on en reviendra d'ici quelques instants. Et des voyages aussi. Des voyages donc en dehors de Nîmes, enfin du Gard.
Oui, souvent à l'étranger.
Disons
qu'on fait un grand voyage par an, un voyage à connotation culture antique. Je peux vous citer, on a fait il y a quelques années l'Hispanie romaine, qui était l'Andalousie romaine, qui était un super voyage. On a fait des voyages en Turquie, on a fait des voyages en Macédoine, bien sûr en Grèce, bien sûr en Italie, en Rome, en Campanie, en Sicile. Notre prochain voyage aura lieu en Crète, donc c'est plus la civilisation romaine, mais c'est la civilisation antique des Minoens. C'est des voyages en général.
Vous êtes allé à la recherche du fil d'Ariane.
Du fil d'Ariane, c'est ça. peut-être on va trouver dans le palais de Minos à Knossos, oui, bien sûr. C'est un très bon voyage. Chaque fois, on orienté visite de musées archéologiques, visite de sites archéologiques. En général, on a des conférences avant qui nous préparent au voyage. Donc, c'est toujours de bons moments. Et puis, bien sûr, on a des moments où on cultive la convivialité.
Bien sûr. Alors, vous venez de parler des conférences. Donc, ça, c'est le troisième volet du triptyque de l'association, c'est que vous avez un certain nombre de conférences dont on peut citer la prochaine, qui est le samedi 6 décembre 2025.
C'est cela. Donc,
Nous
avons une conférence environ par mois, du mois de septembre au mois de mai, et on essaie de faire appel aux meilleurs spécialistes dans leur domaine. Donc là, vous avez cité la conférence du 6 décembre.
Oui, parce que c'est la prochaine, c'est ça.
Cette conférence aura lieu, puisqu'on décentralise un peu les lieux de conférence pour essayer de se rapprocher le plus possible de notre public. Cette conférence aura lieu le 6 décembre prochain à 15h à la salle polyvalente
de Combs.
L'objet de cette conférence est tout à fait particulier. Ça s'appelle « Mesure au pluriel, mesure du temps dans l'Antiquité ». Et c'est vrai que c'est des aspects auxquels on ne pense pas. Comment, je vais faire une boutade, hommes d'affaires antiques arrivaient à l'heure à leur rendez-vous.
C'est vrai. Il n'y avait pas de pendule, il n'y avait pas Internet.
Il y avait beaucoup de choses. Donc, on compte sur notre conférencière, Mme Paulette Richard, pour nous éclairer sur cet aspect-là. Elle nous avait fait une conférence sur le parfum dans l'Antiquité. C'est des sujets transversaux.
Ça, c'est pour la fin de l'année. Et l'année prochaine, vous avez déjà prévu le programme du premier semestre.
C'est ça, même jusqu'à la fin de l'année. Le programme du premier semestre va commencer le 28 février à la Maison des associations de Roumoulin. Vous voyez, quand on parle de culture antique, des fois, on déborde un peu.
Oui.
Et là, le thème, c'est le royaume de Tolède et la Septimanie visigothique. C'est ce qui a un peu suivi l'effondrement de l'Empire romain. C'est la première structure étatique un peu qui commence à émerger en dehors du pouvoir ecclésiastique après la chute de l'Empire romain. Ensuite, nous aurons une deuxième conférence Le 28 mars à 15h, toujours au foyer Fernand Benoît de Valiguière. Alors là, nous faisons appel à une pointure, et qui est M. Benoît Rossignol, qui est enseignant, qui est spécialiste, donc, qui est enseignant à la faculté d'Avignon. Et il va nous parler de Marc Aurèle, parce que c'est un spécialiste de Marc Aurèle.
Il a fait,
vous avez les pensées de Marc Aurèle qui sont fameuses. Et il est spécialiste, il vient d'ailleurs de rééditer son livre sur Marc Aurèle. Ensuite, nous aurons le 25 avril à 15h à la Maison des associations de Castillon, c'est-à-dire à notre siège, à côté de notre siège social, une intervention un peu particulière dont le titre est « La datation absolue en archéologie, progrès récent ». Vous savez que grâce à de nombreuses méthodes scientifiques, de nombreux progrès scientifiques, eh bien on arrive à élucider un certain nombre d'interrogations sur lesquelles il n'y avait jusqu'à présent que des hypothèses. Et c'est grâce au développement de ces techniques, et l'intervenant, M. Pierre Muller, qui est professeur à Aix-Marseille, est un physicien spécialiste, alors je vais dire des termes techniques, des surfaces, d'interfaces et nanomatériaux. Et c'est un archéologue, il est diplômé d'archéologie et c'est un archéologue actif puisqu'il a participé à des fouilles archéologiques. Il va nous expliquer comment maintenant on peut arriver à dater précisément les artefacts que l'on trouve.
Bon, et puis pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, vous avez des publications et éruditions.
C'est cela.
Deux bulletins par an.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement que des visites, que des conférences, etc. Il y a, comme je vous l'ai dit, dans notre association, des personnes qui se sont investies dans la culture antique et qui nous font part de leur intérêt qu'ils ont pour un livre, pour une personne, par exemple. Bon, il y a eu toute une série sur des reines et des personnages féminins dans l'Antiquité. Tout cela est fait l'objet d'une recension dans un bulletin, et on produit entre guillemets depuis quelques années deux bulletins par an. On va éditer le 50e l'année prochaine à l'occasion de notre 20e anniversaire.
On retrouve sur le site.
Point du Gard. Point org. Voilà, vous allez à la médiathèque, vous avez tout ça, et vous avez en plus, en bonus, le compte rendu d'environ 300 conférences que nous fait une spécialiste enseignante agrégée émérite et à la retraite, et qui nous fait des comptes rendus de toutes les conférences auxquelles elle assiste, et Dieu sait si elle en a assisté à beaucoup, puisqu'il y a 300 donc recensions de conférences qui sont autant d'éruditions de matière et de nourriture pour ceux qui sont intéressés par la culture antique.
Tout ça, c'est bien passionnant, Christian, et c'est vrai qu'on pourra en parler des heures. Je vous invite à rejoindre l'association Pont du Gard et Patrimoine pour vous faire des idées sur la civilisation romaine mais antique.
C'est ça, civilisation antique en général.
On se retrouve dans une prochaine édition. Merci Christian et à bientôt.
Merci de votre accueil.